France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Les médecins doivent-ils masquer leurs émotions? Du matin au soir, dans le secret de leur cabinet, les médecins sont confrontés aux émotions de leurs patients. Colère, désespoir, angoisse, joie, tristesse. Nos médecins qui doivent absorber les émotions de leurs malades, mais qui doivent également composer avec les leurs. Jusqu'où doit aller leur empathie à l'endroit de leurs patients? Et comment bien écouter les malades? Et puis, ne pas écouter, faire preuve de froideur? Est-ce le début de la maltraitance médicale? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons les écrivains et médecins Monique Horwitz-Guérin et Baptiste Beaulieu. Et vous, quel rapport entretenez-vous avec vos médecins? Font-ils preuve d'écoute et d'empathie? Vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Vous savez, c'est un métier terriblement angoissant. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'exerce avec souffrance, avec difficulté, avec souci. On répare, voilà. On répare dans la médecine. On répare les conneries de la nature. La nature, c'est une barbarie. Alors on se bagarre en permanence contre une barbarie. C'est bien. Même si on sait qu'à la fin, c'est elle qui gagnera. Parce que ça continuera toujours.
Extrait de médecin de campagne de Thomas Lilti. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin généraliste à Toulouse, écrivain, vous publiez à l'Iconoclaste. Où vont les larmes quand elles sèchent? Vous vous reconnaissez dans le monologue de François Cluzet dans Médecins de campagne?
Oui, tout à fait. Ce métier, vous savez, c'est un métier qui nous consume aussi. Hein. On n'est pas des robots. Les gens viennent, montrent leur visage, montrent leur fêlure, pleurent. Et nous, on est là pour accueillir la plainte. Et je pense que jour après jour, on peut se laisser parfois contaminer par le malheur des autres et notre vision du monde changer. C'est tout simple. Vous savez, j'avais pas très peur de vieillir avant d'être médecin. Et puis, on voit des patients qui viennent, qui nous confient les douleurs qui sont les leurs hein, en vieillissant. Mais aucun patient va venir et me payer 25 euros pour me dire, voilà, j'ai 85 ans, et je suis bien dans ma peau, j'ai mal nulle part. Ces patients-là, on les voit pas. Et tout ça pour dire que le cabinet est un filtre et que les personnes qui vont bien, elles viennent pas nous consulter. Pareil pour les maltraitances conjugales. J'adorerais qu'une femme vienne me donner 25 euros pour me dire, mon mari est génial, il fait sa part du job, il me parle bien, il s'occupe bien des enfants. Non, nous, on a le reste. On a les femmes qui pleurent, les femmes qui ont mal, les femmes qui vivent l'enfer à la maison. Et du coup, notre vision du monde, évidemment, elle en est profondément altérée.
Baptiste Beaulieu, votre roman est très autobiographique. Jean, le médecin de famille âgé de 36 ans, qui exerce dans un quartier populaire, c'est votre alter ego, c'est en grande partie vous?
Oui, c'est un roman très autobiographique, d'autant plus que mon prénom c'est Jean-Baptiste, Baptiste Beaulieu c'est un pseudo, mais oui, j'avais envie en vrai, de raconter qu'est-ce que c'est qu'être médecin de famille aujourd'hui en 2023 en France. J'avais envie que les gens découvrent ce métier de l'intérieur, qu'ils soient un petit peu comme derrière mon épaule au cabinet médical et qu'ils assistent à mon quotidien de médecin. J'avais envie un petit peu de montrer la beauté de ce métier.
Contrairement à Jean, dans cette émission, lors de vos chroniques, vos yeux sont parfois embués de larmes. Mmh. Vous pleurez plus facilement que Jean. Qui retient ses larmes?
C'est compliqué parce qu'on n'est pas là pour pleurer avec nos patients, évidemment. Et en même temps, je leur dis, nous ne sommes pas des robots, vous voyez. Je crois que le plus compliqué dans ce métier, c'est de ne pas se laisser contaminer par la colère. Parce que la maladie, c'est l'injustice ultime. Et concrètement, notre travail, c'est de composer avec l'injustice ultime tous les jours, à chaque fois qu'un patient vient nous voir. Et comment est-ce qu'on ne se laisse pas contaminer par la colère? Je peux vous raconter une petite anecdote. On reçoit souvent des femmes victimes de violences conjugales au cabinet médical, et quand on reçoit une femme et qu'on lui enlève pour la deuxième ou troisième fois des agrafes sur le front et qu'il y a son mari qui attend en salle d'attente, et je le raconte dans le roman, bah on n'a qu'une envie au bout d'un moment, c'est d'aller dans la salle d'attente casser la gueule du mari. Alors on le fait pas parce que il est grand et qu'on est lâche, et puis surtout ça rendrait pas du tout service à cette femme. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait nous concrètement de cette situation? Comment on la digère? Et je me souviens d'une soirée, j'avais eu une sale journée comme ça, notamment avec une femme victime de violence. Et à l'époque, j'habitais en face d'un monoprix, et mon entrée de parking était devant le monoprix. Et quand je rentrais le soir, il y avait toujours un gars qui s'était garé pour aller faire ses courses et qui s'était garé devant mon entrée de parking. Et ce soir-là, je rentre et il a pris pour tout le monde, il a pris pour toute cette colère que j'avais emmagasinée. Alors je suis rentré dans le monoprix et on m'avait dit de faire ça avec du rouge à lèvres. J'avais pas de rouge à lèvres sur moi, et donc j'ai acheté du beurre et je suis ressorti et j'ai écrit sur la voiture: ceci n'est pas... Mais après, j'avais plus de beurre parce que j'avais trop appuyé, et je voulais écrire: ceci n'est pas une place de parking. Mais en fait, fallait acheter du 250 grammes, pas du 125. Mais... Là, j'ai peut-être un auditeur qui va appeler en disant « c'était ma voiture », mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pas se laisser contaminer par cette colère-là, quoi ?
Alors, dans votre roman, Jean dresse le portrait d'une dizaine de patients qui l'ont marqué. Son cabinet ressemble à tant de cabinets médicaux, des murs en crépi beige, une salle d'attente qui ne paie pas de mine, 13 chaises grises et noires, pas de journaux à feuilleter. Jean passe l'essentiel de ses journées dans ce cabinet, ni heureux, ni malheureux, écrivez-vous.
C'est
et d'ailleurs, je le disais, il est impossible de pleurer, et je vous cite: les malheurs de mes patients m'obstruent les pipelines à chialerie.
C'est compliqué. Il faudrait arriver à s'anesthésier totalement, et en même temps, il ne faudrait surtout pas arriver à s'anesthésier totalement. Et du coup, on est dans une sorte d'entre-deux. Moi, j'ai vu des choses à l'hôpital en cours de ma formation qui m'ont montré exactement le genre de médecin que je ne voulais pas devenir. Et je me souviens, par exemple, j'étais jeune étudiant, on rentre dans la chambre d'un patient, j'étais en stage en hématologie, et le patient avait été hospitalisé pour une asthénie, une grosse fatigue. Et on rentre à plusieurs, hein, parce qu'il y a, évidemment, il y a les 3 internes, les 4 externes, les 2 infirmiers, le chef de service, le chef de clinique. Et donc on arrive devant ce patient qui est allongé sur son lit, qui est tout nu sous une blouse, qui a été hospitalisé pour une fatigue, juste une fatigue. Et je vois le chef de service qui s'assoit sur son lit, qui est comme pas anodin comme geste, parce que bon, le lit c'est à peu près le seul espace qui appartient au patient, et qui lui dit tout de go: voilà, on a vos résultats, c'est une leucémie de haut grade, il faut prendre vos dispositions, monsieur. Et puis il se lève, il s'en va. Et là, moi je me dis, mais c'est pas possible, il vient pas de dire à ce monsieur que tout va s'arrêter pour lui, que sa vie s'est terminée, que voilà, il a été un petit garçon qui a appris à faire du vélo, qui a aimé, qui s'est séparé de sa femme, qui a rencontré une autre femme, qui a eu des enfants, et que tout ça s'arrête maintenant. Et il lui a dit ça, il lui a balancé ça comme ça. Alors j'entends parfois des confrères me disent: oui, mais il faut qu'on se protège. Mais qui a protégé le patient ce jour-là? Et notre mission à nous, c'est d'abord de s'occuper des patients, pas de se protéger. Si vous n'arrivez pas à vous protéger, j'ai envie de dire, changez de métier, ou faites du trampoline, du tir à l'arc, expulsez les émotions autrement. Mais notre priorité devrait être le patient, toujours.
Impossibilité pour Jean, votre alter ego, de pleurer, et pourtant une question le taraude. Pourquoi faut-il que la vie soit si souvent douloureuse pour tant d'entre nous ici-bas? Jean se demande si un médecin généraliste peut vraiment être heureux quand tant de patients souffrent face à l'injustice de la maladie qui frappe souvent au hasard.
Il le dit aussi un moment dans le roman, c'est que notre travail, ça consiste aussi... À faire baisser le thermomètre à méchanceté dans le monde. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est malade, il a tôt fait aussi d'être énervé, parfois d'être en colère contre le monde, et que permettre aux gens d'être moins malades, c'est aussi permettre au monde d'être un petit peu moins en colère, je crois. Et c'est quelque chose dont... L'habitude, c'est terrible. Vous savez, on se lève le matin et parfois, je crois qu'un jour, on peut se lever le matin et oublier le sens premier de notre mission. Et moi, ça m'arrive de temps, comme tout le monde, je me lève le matin, je dis: oh non, j'ai pas envie d'aller bosser. Et là, hop, je mets une petite claque mentale et je me dis: non, mais en fait, tu vas aller accompagner des gens, les écouter, tu vas accueillir leurs plaintes. C'est un beau métier. Et là, hop, je monte sur mon vélo et je suis un peu plus content d'aller au travail. Et c'est bien de temps en temps de se rappeler ça, quoi.
Bonjour, docteur Monique Horvitz-Guérin.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, vous avez exercé pendant plus de 40 ans à Paris, et vous avez enseigné pendant une trentaine d'années à la faculté de médecine René Descartes à Paris, et vous avez publié chez Gallimard, dans la collection L'Infini, dans la tête du médecin, le dernier livre édité par Philippe Solers. Tout au long de votre carrière, vous vous êtes posé la question de cette inégalité et de cette injustice face à la maladie, face à la souffrance qui frappe plus fort les uns que les autres.
Oui, c'est
avec
évident.
Parfois un sentiment personnel de désespoir.
Le désespoir, je ne l'ai jamais eu personnellement, même si dans des situations précises, on peut être tenté de trouver ça tellement injuste que c'est désespérant. Mais vous parliez d'enseignement que j'ai fait à la fac. Ce qui est à déplorer peut-être dans l'enseignement des médecins, c'est le manque d'attention à ce qui est ce que j'appellerais gérer ses émotions, mais surtout savoir les anticiper, savoir les reconnaître. Les jeunes
savoir
médecins...
Accompagner
les émotions, je dirais peut-être un peu les masquer sur son visage, masquer la peur, parce qu'il y a aussi la peur, la culpabilité, vous en parlez Baptiste Beaulieu dans votre livre, la culpabilité parfois d'avoir été en colère. On n'apprend pas ça aux médecins. Il y a Josette, franchement, il faudra raconter Josette, parce que c'est merveilleux, cette Josette dans la salle d'attente. On n'apprend pas aux jeunes médecins on leur dit pas, vous allez affronter des émotions terribles. C'est peut-être le boulot que vous ferez le plus dans votre vie et qui sera le plus important pour les patients.
Adrien Chaboche.
Oui, tout à fait. Alors, heureusement, on avance un tout petit peu, parce que maintenant, dans les cursus, notamment d'internat de médecine générale, il y a des cours qui portent sur la communication, sur la relation thérapeutique, sur l'apprentissage par groupe de pairs de la gestion et des émotions. Mais c'est déjà ce qui s'appelle les groupes Balins, c'est important qu'on le cite quand même. Mais ce qui est très important, c'est déjà de donner les moyens à un jeune médecin, ou à un médecin d'ailleurs, dans tout ce cas, de s'autoriser à pouvoir se dire que on peut vivre des émotions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de les refouler, les bloquer. Et alors là, je rejoins tout à fait ce que Baptiste Beaulieu disait, c'est que ça va générer aussi de la colère, parce qu'on réprime quelque chose qui est normal en nous. Donc c'est insoluble. On a de la colère en face de nous, on va la bloquer en nous, on va générer de la colère, et alors on se met à la fuir, et donc à raccourcir nos consultations. Parce que c'est un petit raccourci que je fais, mais néanmoins c'est une réalité. Pour éviter ça, eh bien, nous allons avoir beaucoup de confrères, consoeurs, qui vont juste être plus technicien que humain.
Qui vont se bunkériser, se mettre à l'abri de toutes ces émotions.
Jean, votre personnage s'est bunkérisé, comme le dit Monique Horvitz-Guerin. Il est marqué à vie par la mort d'un petit garçon alors qu'il est jeune urgentiste. Le SAMU est arrivé six minutes trop tard. La mère de ce petit garçon s'était trompée d'adresse, 42 au lieu de 24, avec des conséquences terribles. Et cet événement tragique a eu des conséquences, une anesthésie des émotions et un tarissement des larmes.
C'est très autobiographique ce livre, puisque j'étais interne quand ça m'est arrivé, j'étais interne au SAMU, et cet enfant a fait une crise d'épilepsie et sa mère s'est trompée d'adresse. Elle a interverti les numéros, et donc au lieu d'arriver en 5-6 minutes, on a mis 6 minutes de trop. Et je suis ressorti de cette consultation-là, de cette intervention, profondément ébranlé. C'est une vraie question métaphysique. Vous savez, on a tous un moment, quand on est médecin ou étudiant, où on est confronté à la question du mal. C'est la question de pourquoi les enfants meurent aussi dans ce monde, et pourquoi cet enfant-là était mort, parce que sa mère l'aimait tellement qu'elle, sous le coup de l'émotion et du stress, elle a interverti ses chiffres. J'ai été tellement mal que j'ai arrêté quelques temps mes études, je suis parti en voyage, j'avais besoin de verticalité, de trouver des réponses à mes questions, et la seule chose qui m'a vraiment aidé à l'époque, ça a été la littérature, ça a été notamment la poésie, et notamment un poète, Fernando Pessoa, et son recueil qui s'appelle Le gardeur de troupeau, et qui m'a vraiment apporté les réponses que tous les livres religieux, malheureusement, ne m'apportaient pas, quoi. Et heureusement, je le dis dans le livre, l'art a peut-être cette fonction-là de pouvoir apaiser des choses en nous.
Docteur Monique,
la littérature, effectivement, fait éprouver des émotions, fait se mettre à la place des personnes dont on lit l'histoire, beaucoup mieux qu'un film, beaucoup mieux qu'une vidéo, beaucoup mieux qu'un cours, bien sûr. Et se mettre à la place de l'autre, c'est déjà l'empathie, c'est déjà s'autoriser à être à la même hauteur. Moi, je suis... un peu, j'ai un effet buvard qui se met immédiatement en place, genre syndrome de l'éponge. Dès que quelqu'un pleure, pof, ça monte, ça me serre la gorge, je sens les larmes qui montent, et je sens que je suis à niveau de l'autre, je prends toute cette souffrance qu'il me décrit, parce que effectivement, on a souvent on est en rapport, on nous raconte des souffrances tellement parfois terribles que c'est presque insupportable. Alors il faut s'autoriser à souffler. Il faut aussi aller essayer de les évacuer en parlant, en les écrivant, comme vous avez fait, et très joliment, très drôlement, parce qu'il y a beaucoup de moments drôles dans votre livre, et c'est vraiment un plaisir de retrouver cette intimité du médecin et de son patient, c'est parfois cette exaspération devant certains patients qui veulent jamais faire les choses, mais qui en fait nous écoutent, ont un jour un petit sourire qui nous fait tellement de bien au cœur. On a aussi beaucoup de joie dans la en exerçant notre métier de médecin.
Vous dites qu'il faut s'autoriser, et c'est vrai, et il faut aussi qu'on nous autorise. Malheureusement, je trouve que dans la société actuelle, exprimer ses émotions, peut-être encore plus quand on est un homme, pleurer quand on est un homme, c'est vécu tout de suite comme une fragilité ou une faiblesse, alors que c'est vraiment un cadeau qu'on fait à l'autre. Regarde, je me mets à nu devant toi, accepte ce cadeau que je te fais. Et je me souviens d'une consultation, je la raconte dans le livre, où un petit garçon s'était coupé, mais vraiment trois fois rien, au bout du doigt, en cuisinant avec sa mère. Et donc, il arrive avec un énorme pansement. Et au moment où je déplie le pansement pour regarder la plaie, et il a eu cette phrase en me regardant, il me fait « Je te préviens, c'est pas joli joli, tu vas faire des cauchemars, et toute la nuit en plus. » Et ben, cette phrase, ce mot d'enfant, il est beau, mais il est encore plus beau, parce que c'était vraiment une autorisation qu'il me donnait d'être ému, par ses péripéties. Et je crois que, heureusement qu'il y a les enfants, parfois, pour nous autoriser à être totalement nous.
C'est grave, docteur. C'est le cœur, n'est-ce pas ?
Non, c'est un peu de...
Grand bien vous fasse.
Comment vous dire ? Vous êtes usé, c'est ça, vous êtes usé, monsieur...
Ali Rebéi.
Martinet, c'est ça. Eh bien, vous êtes usé.
Sur France Inter.
Un médecin très empathique dans Le Viager. Vous avez reconnu évidemment Michel Galabru et Michel Serrault. Et ce matin, les médecins doivent-ils masquer leurs émotions ? C'est notre question ce matin à l'occasion de la parution du tout nouveau roman de Baptiste Beaulieu, « Où vont les larmes quand elles sèchent ?» Avec nous également le docteur Monique Horvitz-Guerin.
Tout ce qu'on absorbe en fait au cours des décès qu'on vit, ou toutes les émotions douloureuses, que ce soit des décès ou pas des décès, parce qu'il y a des situations qui sont traumatiques et qui sont pas forcément des décès. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais. Oui, je pense qu'on accumule, c'est-à-dire qu'on, ça s'appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'en fait, on a des réactions émotionnelles qui sont différentes parce que on a vécu plusieurs fois, on a été exposé plusieurs fois à la mort, à la tristesse. Et c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Et en fait, ça a des conséquences sur la personnalité des soignants.
Clairement. Je pense qu'on s'abîme beaucoup et que ça nous fragilise après dans notre vie et professionnelle et personnelle. À mon humble avis.
Extrait du documentaire Au cœur de l'annonce. Baptiste Beaulieu, petite réaction à ce que vient de dire votre consoeur.
Je crois qu'elle a dit quelque chose d'important, qui est que on a affaire à des histoires. Et ces histoires, elles sont portées par des visages. Et c'est hyper important de se rappeler que nous, on voit 20, 25 visages dans la journée qui se confient, mais les visages qui viennent nous voir, eux, ils ont vu que le nôtre. Mmh. Et si on les a traités avec mépris, sans empathie, sans humanité, elles s'en souviendront toute leur vie. Alors que nous, le soir, on rentre, on est déjà passé à autre chose.
Avec des conséquences, tout de même. Votre personnage, Jean, votre alter ego, qui n'arrive pas à pleurer, ses larmes, vous l'écrivez, poussent les parois de son corps. Mmh. Du coup, il prend 15 kilos de chagrin, écrivez-vous. Il y a des conséquences de ces consultations, souvent traumatiques, sur son corps, sur sa psyché. Et d'ailleurs, vous nous l'avez dit déjà dans cette émission, il vous arrive, Baptiste Beaulieu, de manger vos émotions.
Ah oui, moi clairement, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai pris 15 kilos, mais je sais d'où ça vient. C'est une manière comme ça, je rentre le soir, je me jette sur la bouffe. C'est une manière névrotique, je pense, d'éteindre cet incendie en moi par rapport à toutes ces choses terribles que les gens me confient. Mais encore une fois, on n'est pas des robots. On ne peut pas aller chez quelqu'un qui a un cancer et qui est en hospitalisation à domicile. On ne peut pas aller chez lui une fois par semaine, pendant 6 mois, s'occuper de lui et se dire « je le tiens à distance ». Un jour, il est seul, il dit « ah, vous voulez que je vous prépare un café ?» Et on sent que ce n'est pas nous qui avons besoin du café, c'est lui qui a besoin qu'on prenne un café avec lui. Donc on prend un café. Et puis puis un jour, son fils ou sa fille est là, il nous propose une cigarette. Alors, comme on essaie d'arrêter, évidemment, on se jette sur la cigarette, et donc on fume avec le fils ou la fille sur le balcon en parlant de la santé du père. Et évidemment qu'un jour, quand les choses se terminent, eh ben oui, on a des émotions. Et je me souviens de ces enfants qui étaient là le jour où leur père est parti, et j'ai pas pu m'empêcher de lâcher une larme. Et je me souviens, je m'en voulais après en sortant en me disant mais t'aurais pas dû te montrer comme ça à nu, c'est pas ça qu'ils attendent, ils attendent un professionnel, quelqu'un voilà de peut-être un peu plus à distance. Et un an après, ça a mis un an, je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu une carte de leur part où ils me disaient vous savez on n'a pas oublié vos larmes ce jour-là, et ça nous a aidé parce qu'on s'est dit papa est parti avec une personne concernée. Et ce mot concerné, je crois que c'est peut-être le mot le plus important de cette émission, c'est je crois que les gens ont besoin d'avoir en face d'eux des personnes qu'ils sentent concernés. Et peut-être, malheureusement, aujourd'hui, certains médecins ne sont pas assez concernés ou ne montrent pas assez.
Beaucoup de messages en ce sens, Baptiste Beaulieu. Annie qui nous écrit « Ma médecin n'a pas le temps de m'écouter. Elle plonge dans son ordinateur quand j'arrive et me donne l'impression que c'est la première fois qu'elle me voit. Donc, je la vois de moins en moins souvent car je suis toujours extrêmement frustrée après cette visite bâclée. Hélène, mon médecin est catastrophique. Aucune empathie, critique de ses autres patients, retard pour convenance personnelle, j'en passe et des pires, mais nous sommes obligés de la garder, bien content d'en avoir une pour le parcours de santé. Et Ghislaine qui nous dit, les médecins distants ou froids, même très professionnels, me mettent mal à l'aise, je garde mes docteurs de très longues années, une fois que je suis bien avec, voilà, souvent ils me tutoient, mais ils restent rassurants et j'écoute leurs conseils, ils ont ma confiance. Beaucoup, beaucoup de messages dans ce sens, docteur Monique Horwitz-Guérin.
Oui, c'est déplorable parce que le boulot d'un médecin, c'est pas d'être comme ça, enfermé dans une sorte de tour d'ivoire à distance du patient, pas mélanger, pas prendre son existence entièrement. Quand il vient nous voir parce qu'il demande de l'aide. Parfois, il sait pas l'exprimer, il l'exprime qu'à la fin d'une consultation, ça peut rallonger une consultation, mais il faut du temps pour dire les choses. Et si on bâcle en regardant que l'écran d'ordinateur, moi l'écran d'ordinateur, personnellement, l'ordinateur me servait beaucoup parce que j'aimais bien retrouver facilement les consultations à la fin. Mais souvent, je le tournais vers le patient en lui disant « Voyez ce que j'ai... » Voilà, ma conclusion, c'est plutôt ça. Mais j'en suis pas sûre. Bon, c'était plutôt pour discuter, pour dialoguer. Le patient en face de nous, il a besoin de nous. Il a besoin de nous plus ou moins forts, plus ou moins faibles, mais il a besoin de nous humains. Il n'a pas besoin de nous seulement biomédical. Voilà.
Je vais encore citer une anecdote, mais qui est assez révélatrice. Il y a quelques années, mon père m'appelle à 7h30 du matin. Il m'appelle jamais aussitôt, donc je suis très inquiet, je décroche.
Oui, j'imagine.
Et je me dis, il me dit, voilà, ta grand-mère est décédée cette nuit. Alors, j'arrive au travail dans un état pas possible et une patiente s'installe en face de moi. Et j'étais jeune remplaçant. Il me dit, voilà, je viens pour renouveler mon arrêt maladie tous les 3 mois. Il me le renouvelle de 3 mois. Je lui demande, mais du coup, pourquoi vous voulez un arrêt maladie? Pourquoi vous avez cet arrêt maladie? Elle me dit non, mais le médecin, il sait d'habitude, vous pouvez juste me le renouveler. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En deux minutes, on s'est retrouvés l'un et l'autre à se crier dessus, comme ça. Elle qui ne voulait pas expliquer, moi qui exigeais une explication, et elle est partie en claquant la porte. Et toute la matinée, ça m'a pris la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là en quelques minutes pour que ça vrille comme ça? Et je me suis dit, t'es adulte, tu prends ton téléphone, t'as les coordonnées sur l'ordinateur, j'ai appelé cette patiente. Et je l'ai eu au téléphone. Et j'ai dit, voilà, je voudrais comprendre ce qui s'est passé ce matin. Et là, elle m'a dit, mais vous rendez pas compte, c'est que moi, j'ai une maladie chronique, une encéphalite chronique. Chaque fois que c'est pas mon médecin et que c'est un remplaçant, je dois re-raconter le calvaire que je vis depuis des années. Et j'ai pas envie de reparler de ça à chaque fois. Et là, j'ai compris. Et j'ai dit, bon, elle s'est expliquée. Donc moi, je lui dis, écoutez, moi, je viens d'apprendre le décès de ma grand-mère. J'étais pas bien ce matin. Je vous prie de m'excuser. Et j'ai raccroché en me disant, on s'est expliqué, mais elle ne viendra plus jamais me voir vu comment on s'est engueulé ce matin. Eh ben, on est trop au cabinet. Maintenant, elle ne vient plus voir que moi. Et je pense que quelque part, elle s'est dit, j'ai pas un robot en face de moi. On a été capable de s'expliquer. Et c'est devenu une patiente chouchou, quoi, que je vois très régulièrement.
Pourquoi écouter, mais vraiment écouter son patient, c'est si important? De quelle façon l'écoute fait-elle partie du soin thérapeutique? Il ne faut pas oublier que dans l'acte de soigner, l'écoute du médecin, l'empathie du médecin, fait aussi partie de la thérapeutique.
Ben malheureusement, on n'a plus de lieux sanctuarisés aujourd'hui. Hein. C'est très difficile d'avoir des endroits où on peut parler sans être jugé. Et les seuls lieux qui peuvent plus ou moins ressembler à ces lieux sanctuarisés où on pouvait parler sans être jugé, bah c'est encore le cabinet médical. Seulement, c'est une catastrophe, parce qu'avec la démographie médicale qui s'est réduite, le vieillissement de la population, donc l'émergence de polypathologies et donc de consommation de soins plus importante, le temps de consultation disponible, c'est-à-dire le nombre de médecins et le temps qu'ils ont à vous accorder, s'est réduit drastiquement. On ne peut pas faire de la bonne médecine si une personne vient, s'installe en face de nous, se met à pleurer et qu'au bout de 10 minutes, on lui dit « Je suis désolé, j'ai du monde en salle d'attente, au revoir madame ».
Vous diriez que ne pas écouter son patient, c'est une forme de maltraitance médicale?
Bien sûr, mais qui est parfois notre corps défendant, dans le sens où je ne veux pas accuser les médecins d'être, qui sont également les victimes des politiques sanitaires de ces 30 dernières années.
Mais Jean, par exemple, votre personnage, dit la chose suivante, « J'ai l'impression que ma vie, c'est devenu ça. Aimer les êtres humains le lundi, les détester le vendredi, me reposer, puis tout recommencer. » Et c'est vrai que dans ces conditions, il y a des jours plus propices à l'écoute que les autres.
Ah bah clairement, on n'est pas le même médecin lundi matin et le vendredi
soir. Donc il vaut mieux venir vous voir lundi matin.
Moi, c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs et les auditrices, c'est aller voir votre médecin plus tôt le matin si vous pouvez. En début de semaine aussi.
Monique,
oui, l'écoute attentive, c'est aussi être présent à l'autre et pas être soi-même immergé dans une autre souffrance, dans un ras-le-bol qui va vous engluer l'esprit. Et vous, c'est sûr que même au cours d'une même journée, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil avec tout le monde. Et puis, il y a une sympathie aussi qu'on a avec certains patients, pas avec d'autres. Il y en a qui vous énervent dès qu'on les regarde. Et c'est là où il faut masquer ses émotions. Parce que cette colère, cette irritation qui n'a pas de fondement très explicite comme ça, qui en a sans doute derrière, si on regarde sa propre histoire, mais qui va vous gêner dans le rapport à l'autre, parce que, oh, celui-là, il m'embête, il va me redemander des antibiotiques, et puis il va me refaire ça, et puis le coup de, ah, il a mal au dos, et puis je l'ai vu marcher dans la cour, il allait très bien, et puis là, il peut plus se lever de sa chaise. Bon, ben, ça va, j'ai compris. Alors, respirez bien, monsieur. C'est surtout nous qui devons respirer de temps en temps.
Comment expliquer que de nombreux patients ne se sentent pas écoutés, pas consultés sur les décisions de santé qui les concernent en premier lieu et qui peuvent engager leur existence? C'est parce que beaucoup de médecins se méfient de ce que leur disent leurs patients par principe.
Je crois qu'effectivement, malheureusement, beaucoup de patients ne sont pas écoutés. Tout simplement, et qu'ils ont raison d'avoir ce sentiment-là. C'est peut-être aussi parce qu'on vit une époque ultra scientifique, on fait de la médecine d'organes. La personne vient, dit j'ai mal au dos ou j'ai mal au ventre, on va s'occuper du dos ou du ventre. Je crois que c'est très important au cours de la consultation, et ça prend pas si longtemps que ça ou qu'on peut l'imaginer. Juste demander à la personne comment ça va au travail, comment ça va à la maison. Moi, les femmes, je leur demande très souvent, est-ce que le mari est sympa avec vous? Parce que c'est des questions importantes. Les enfants, c'est très important, les enfants aussi, de leur demander comment sont papa et maman avec toi à la maison. Alors, un truc tout bête, mais qui, moi, m'a changé vraiment mon rapport aux patients et au corps des patients, c'est systématiquement leur demander l'autorisation pour les examiner. Alors, 9 fois sur 10, j'ai le patient qui me dit, bah oui, je suis venu pour ça quand même. Mais je vois qu'une fois sur 10, et souvent dans les regards des patientes, il y a un apaisement immédiat, parce qu'elles savent que si je leur ai demandé avant, et ben, si elles en ont marre pendant ou qu'elles veulent plus pendant, je saurai l'écouter. Et ça change tout.
Bonjour Arlette, bienvenue.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Je suis à l'antenne là.
Oui, vous êtes à l'antenne.
Oui, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait que je témoigne en faveur de mon médecin traitant, qui va bientôt avoir 82 ans.
Mm-hmm. Ah, il exerce encore. Il exerce encore.
Il exerce. Et non seulement il exerce, mais il fait encore du domicile. Mm-hmm. Il est disponible tout le temps. Mais sachant qu'il n'a pas d'enfant, donc il n'a pas sa femme est décédée, etc. Mmh. Mais si vous voulez, il est tellement humain que le jour on a peur qu'il parte, parce qu'il est disponible, humain. Et quand lorsque vous allez chez lui, il prend pas votre carte vitale, il la met dans l'appareil et il vous demande qu'est-ce que vous voulez comme médicament. Il vous demande comment vont vos enfants, vos deux filles. Il s'intéresse un peu qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait hier, parce qu'on a le jardin, le potager, etc. Et il commence par ça. Donc, il nous met à l'aise. Et après, il commence avec comment vous allez, etc., pourquoi vous venez, etc. Mais des fois, ça dure une heure. Quelquefois, ça dure une heure. Et on ne voit pas le temps passer. Et on l'appelle. Même le dimanche, il vient. Il vient à domicile. Et il y a quelque temps, il a eu des soucis de santé, petits soucis de santé. On a dû chercher un autre médecin. Quand on a vu la différence, elle nous a gardé 3 minutes, montre en main, mis la carte vitale, que vous faut-il comme médicament. On avait, pour la première fois qu'elle nous a vus, mais moi, vous savez, quand vous allez chez un médecin, en principe, vous vous sentez toujours mieux en sortant qu'en rentrant. Moi, j'ai toujours eu ça avec mon médecin traitant. Même des fois, sans qu'il prescrive trop de médicaments, vous rentrez chez un médecin, vous n'êtes pas bien, le fait de lui avoir parlé, je vous le dis comme je le pense, on se sent mieux. Et mon médecin, il a cette faculté-là, il est vraiment humain. Et je vous dis, on le gâte, et tous les patients le gâtent. Effectivement, les patients, c'est un peu sa famille, si vous voulez. Alors, on lui fait des petits gâteaux, on lui ramène des petites choses, parce qu'il le mérite. Et moi, je dis toujours, il ne sait pas que je vous appelle, je ne savais même pas moi-même que j'allais vous appeler.
Est-ce qu'on peut dire son nom, peut-être? Allez, donnez son
nom. Nous, on habite Sarreguemines et c'est Dr Fritz de Sarreguemines.
Ben, Dr Fritz de Sarreguemines, vous avez de nombreux patients qui vous aiment. C'est très touchant, ce témoignage d'Arlette Baptiste Beaulieu. Vous, il y a Madame Chaïd, enfin, elle s'appelle, dans la vraie vie, c'est pas Madame Chaïd, mais qui vous amène aussi des gâteaux. Vous en avez fait une chronique une fois. Mais votre regard sur ce magnifique témoignage d'Arlette?
C'est bien pour les patients, mais moi j'aimerais bien voir ce soignant et puis savoir comment il va lui, parce que il y a beaucoup de sacrifices derrière ce témoignage, et on est une des professions qui se suicide le plus. Alors peut-être parce qu'on sait comment s'y prendre, malheureusement, mais j'aimerais bien savoir comment il va lui.
Mais c'est beau quand même, ce témoignage.
Ah bah oui, bien sûr.
Monique Horvitz-Guerrand.
Oui, c'est beau, mais c'est vrai que la souffrance des soignants est un problème qui devient majeur actuellement.
Oui, et puis qu'on peut essayer de vouloir dissoudre dans le travail à outrance, quoi.
Et qu'il faut pas négliger. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains sont plus dans une relation très rapide, très brève, très conventionnelle et pas très humaine avec leurs patients. Mais c'est vraiment magnifique ce qu'elle raconte, Arlette, et ce pauvre médecin, je le plains aussi. Mais en fait, c'est sa vie. On voit bien que c'est sa vie, de la médecine, exercer.
Il reçoit, à mon sens, tellement d'amour de la part de ses patients que ça fait tenir aussi à l'âge
probablement. C'est sûr que ça nous fait tenir, là.
Oh, il a pas fait de vie, ce homme-là. Asseyez-vous.
Grand bien vous fasse.
Montrez-moi votre langue. Langue blanche, œil jaune, nez rouge, le foie. C'est le foie. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais.
Sur France Inter.
Et ce matin, les médecins doivent-ils masquer leurs émotions? On s'intéresse également à l'empathie et à l'écoute des médecins. Martine qui nous écrit, merci aux médecins qui cultivent la compréhension et la bienveillance à l'égard des malades atteintes d'un cancer du sang. C'est grâce à vous que je tiens le coup moralement. Vous êtes aussi précieux pour nous que les médicaments. Merci à la médecine et merci à vous pour votre humanité. Adrien, les patients évoquent souvent le fait que les médecins soient détachés et c'est nous, infirmiers, aides-soignants, qui bien souvent géreront leurs émotions. Baptiste Beaulieu.
Quand j'ai commencé à m'installer, j'ai attrapé un staphylocoque doré en soignant à l'hôpital. Et donc j'ai eu 4 ou 5 abcès, j'ai dû être opéré plusieurs fois avec des méchages. Alors je sais pas si les gens savent, mais c'est très douloureux. Et donc moi, c'était une infirmière qui venait me faire le soin au cabinet, là où je faisais mes consultations. Elle s'asseyait comme une patiente. Et puis elle faisait comme si elle était une patiente, puis elle venait. Et puis je me mettais moi sur ma propre table d'examen. Et elle changeait la mèche. Elle s'appelle Corinne, elle exerce à Toulouse. Et ça a été une période très dure pour moi, parce que c'était douloureux. Et j'ai tenu parce que c'est la joie de vivre incarnée. Et qu'elle faisait des choses toutes bêtes. Elle mouillait la mèche avant de la retirer pour pas que ça accroche à la chair. Et heureusement, oui, heureusement qu'il y a ces soignants-là, quoi.
Julie nous écrit, je suis infirmière et cela me fait beaucoup de bien d'entendre un médecin parler ainsi. L'humanité est le cœur de ce métier. Et Cécile, merci Baptiste, merci pour ce témoignage émouvant et qui remet le patient au centre en montrant la réalité de ce à quoi les professionnels de santé sont confrontés. Il est temps de changer le cursus des professionnels de santé pour y inclure littérature émotionnelle, la communication non violente et de créer ainsi une obligation de supervision pour toutes celles et ceux qui prennent prennent soin des autres. Docteur Monique Horwitz-Guérin, à l'aune de votre longue expérience de médecin généraliste, quelle est la bonne distance à observer avec son patient? Quelle est la juste distance?
Elle n'est pas toujours facile à trouver. Elle varie suivant la maladie du patient qu'on a. Je dois dire que la bonne distance, quand vous venez pour une rhinopharyngite, aucun problème, ou une bronchite, on l'a tout de suite. La bonne distance, quand la maladie s'aggrave, quand on voit régulièrement un patient, quand on va le visiter à domicile, là, elle se rétrécit. On devient tellement proche du patient, on est peut-être trop proche, mais c'est comme ça. Il faut que le médecin puisse changer leur distance et non pas être rigidifiés dans une distance théorique où là, ils seront peut-être à l'abri des émotions, mais où ils n'iront pas aider le patient jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi une des missions du médecin.
Baptiste Beaulieu, il arrive à Jean, dans votre roman, Ouvrant les larmes quand elles sèchent, d'assister aux funérailles de certains de ses patients.
Pendant longtemps, je m'y suis refusé. Et puis, je me suis aperçu que ça faisait parfois du bien aux familles. Et ça fait partie, justement, de cette juste place. On ne sait pas où aller. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas aller chez les gens toutes les semaines en visite et ne pas finir par nouer des liens. Moi, j'ai des patients, au début, on tape à la porte et j'entends « Chérie, il y a le docteur » et puis maintenant, j'entends « Chérie, il y a Baptiste ». Eh bien, c'est comme ça, on n'est pas des robots.
C'est le cas de M. Alvaro.
Oui, M. Alvaro.
Madame Chahid. Ils sont tous attachants, hein, tous ces patients que vous racontez.
Mais les patients sont attachants. Pour peu qu'on les regarde avec un œil honnête et un œil concerné, tout le monde est attachant. Tout le monde a des fêlures. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens qui sont profondément malheureux, qui sont en souffrance. Je ne crois pas qu'il y ait des gens méchants.
Et à propos de fêlures, vous écrivez « Notre métier est plus beau quand on y reconnaît nos failles ».
Vous savez, quand j'étais étudiant, je me souviens toujours, j'avais très peur parce que je devais faire une présentation au grand chef de service, qui était un vieux professeur et qui nous effrayait beaucoup. Et j'étais tombé sur un patient qui était âgé, qui était venu pour des chutes à répétition à domicile. Et donc j'avais fait une super présentation, magnifique vraiment, j'étais très fier de moi, mais très théorique. Et à la fin, le vieux professeur, devant tout le monde, me dit « Mais ce patient... tu l'as mis par terre ?» Comment ça, je l'ai mis par terre ?» Est-ce que tu l'as pris et tu l'as mis par terre ?» Je dis bah non, bah enfin je prends pas les patients dans leur chambre d'hôpital pour les mettre par terre. Il me fait bah tu le prends, tu le mets par terre, tu regardes pourquoi il a pas pu se relever et tu lui apprends. Et je me suis retrouvé 2 minutes plus tard dans la chambre du patient à le mettre délicatement par terre, à m'allonger à côté de lui et à lui montrer comment on peut se relever tout seul. Je crois que c'est peut-être la plus belle leçon que j'ai pu recevoir au cours de mes études.
En conclusion de cette émission, je cite à nouveau votre roman. Plus je roule ma bosse, plus je me demande, et si soigner, c'était apprendre à consoler.
On est là pour ça. En fait, on se fait tout un monde, on se dit ah, je vais devenir médecin avec le prestige des étoiles dans les yeux. Je crois, et c'est peut-être très beau finalement, qu'on soigne moins qu'on ne console. Et c'est le plus beau de ce métier, je crois.
Dernière question. Une météorite va détruire la Terre de façon sûre et certaine dans un mois. Que faites-vous pendant ce laps de temps?
Moi, je viens de devenir papa. Alors, la réponse, elle va être tellement bateau. Je crois que j'essaie de construire un bunker très rapidement pour mon fils, et de mettre de côté des pâtes. Voilà.
Qu'est-ce que ça a changé, d'ailleurs, dans votre pratique de médecin, le fait d'être devenu père?
Ah, bah, clairement, moi, ça a changé notamment mon rapport aux femmes célibataires, aux mères célibataires. Et avant, je compatissais. Maintenant, clairement, je sens que je serai toujours de leur côté. Nous, on est deux, c'est déjà difficile. J'ose même pas imaginer quand on est toute seule.
Du côté des femmes, et ça se sent dans votre roman avec ces personnages absolument formidables, Josette, Monsieur Alvaro, Madame Chahid, vous pouvez les retrouver dans « Où vont les larmes quand elles sèchent ?» publié à l'Iconoclaste. Merci beaucoup, docteur Horwitz-Guérin, d'être venu. Merci, docteur Adrien Chaboch. Merci à tous.